Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 12. L'Empire et le peuple. Deuxième partie. En 1898, il y eut un revirement dans l'attitude des milieux d'affaires vis-à-vis de Cuba. Les hommes d'affaires s'étaient intéressés dès le début à la révolte des Cubains contre l'Espagne, à cause des conséquences qu'elle pourrait avoir sur le commerce dans cette région. Il existait déjà un intérêt économique considérable pour cette île, que le président Grover Cleveland avait résumé ainsi en 1898. On estime raisonnablement qu'au moins 30 à 50 millions de dollars de capitaux américains sont investis à Cuba dans les plantations, les chemins de fer, les mines et autres activités. Le volume des échanges commerciaux est passé de 64 millions de dollars en 1889 à environ 103 millions de dollars en 1893. Le soutien populaire à la révolution cubaine se fondait sur le sentiment que les Cubains, comme les Américains en 1776, luttaient pour leur libération. Pourtant, le gouvernement des États-Unis, produit conservateur d'une autre guerre révolutionnaire, avait essentiellement en tête le profit et le pouvoir lorsqu'il observait les événements cubains. Ni Cleveland, président des États-Unis pendant les premières années de la révolte cubaine, ni McKinley, son successeur, ne reconnurent officiellement les insurgés cubains comme des belligérants. Une telle reconnaissance légale aurait permis aux États-Unis d'apporter leur soutien aux rebelles, sans pour autant envoyer l'armée. Il semble que l'on ait craint que les rebelles l'emportent seuls, sans devenir redevables aux Américains. Il semble qu'ait également existé une autre crainte. L'administration Cleveland affirmait que, puisque Cuba avait une population mélangée, une victoire cubaine risquait d'entraîner la mise en place d'une république blanche et noire à Cuba. Et la république noire pourrait bien s'avérer dominante. Cette crainte fut exprimée en 1896 dans un article de la Saturday Review par Winston Churchill, jeune et éloquent impérialiste dont la mère était américaine et le père anglais. Dans ce texte, tout en affirmant que la domination espagnole est une mauvaise chose en soi et que les insurgés bénéficient du soutien de la population, Churchill estime préférable que les Espagnols gardent le contrôle. Un grave danger se présente. Deux cinquièmes des insurgés sur le terrain sont des nègres. Ces hommes, en cas de victoire, demanderaient certainement une place prépondérante dans le gouvernement du pays. Il en résulterait, après des années de lutte, une autre république noire. L'autre république noire, c'est Haïti. Son soulèvement contre la France en 1803 avait donné lieu à la première nation du Nouveau Monde dirigée par des Noirs. L'ambassadeur espagnol aux États-Unis écrivait au secrétaire d'État américain de l'époque. Dans cette révolution, l'élément nègre joue le plus grand rôle. Les principaux meneurs sont des hommes de couleur, comme le sont également au moins les 8/10 de leurs partisans. L'issue de la guerre, si l'île devait accéder à l'indépendance, serait la sécession de l'élément noir et l'établissement d'une république noire. Comme Philip Fowler l'affirme dans The Spanish-Cuban-American War, l'administration McKinley formait des plans pour intervenir dans les événements cubains, mais l'indépendance de l'île n'entre certes pas dans ses plans. Il cite les instructions de l'administration à l'ambassadeur américain en Espagne, Stuart Woodford, lui demandant, sans mentionner toutefois les notions de liberté ou de justice pour les Cubains, d'essayer de trouver une solution à cette guerre, car elle affecte gravement le bon fonctionnement du commerce et tend à entraver les conditions de la prospérité. En février 1898, le Maine, un navire de guerre américain qui se trouvait dans le port de la Havane pour signifier l'intérêt porté par les Américains aux événements cubains, fut détruit par une mystérieuse explosion et sombra avec 268 hommes d'équipage. On ne put jamais fournir les raisons de cette explosion. Sans preuve, le rapport officiel américain accusa immédiatement l'Espagne, laquelle proposa aussitôt de confier l'enquête à une commission mixte. Les États-Unis refusèrent. Il est intéressant de noter qu'il n'y eut aucun gradé parmi les victimes. Tous les officiers du Maine, ce soir-là, étaient à une réception en ville. L'indignation s'étendit rapidement aux États-Unis et McKinley commença à envisager la guerre. Walter Lafeber affirme que le président ne voulait pas la guerre. Il avait sincèrement et sans relâche lutté pour sauvegarder la paix. À la mi-mars, pourtant, il commença à réaliser que bien qu'il ne voulût pas la guerre, seule une guerre pourrait lui apporter ce qu'il souhaitait. La disparition de la terrible incertitude dans la vie politique et économique américaine et une base solide pour l'édification du nouvel empire économique américain. Ce printemps-là, McKinley et les milieux d'affaires comprirent que leur objectif principal, expulser l'Espagne de Cuba, ne pourra être atteint qu'en se lançant dans une guerre et que la réalisation de leur autre objectif, assurer l'influence économique et militaire des États-Unis sur Cuba, ne pouvait être confiée aux insurgés cubains. Le Commercial Advertiser de New York, au départ opposé à la guerre, exigea le 10 mars 1898 une intervention à Cuba par humanité, par amour de la liberté et par-dessus tout par désir de voir le commerce et l'industrie de tous les pays du monde se développer le plus librement possible dans l'intérêt général du monde. Certains intérêts spécifiques devaient tirer directement profit de la guerre. À Pittsburgh, cœur de l'industrie sidérurgique, la Chambre de commerce exigeait l'usage de la force et le Chattanooga Tradesman annonçait que la probabilité d'une guerre avait grandement stimulé l'activité sidérurgique. Ce journal ajoutait qu'une guerre accroîtrait très sérieusement l'activité des transports. À Washington, on faisait remarquer qu'un esprit belliciste agitait le département à la marine. Encouragé par les fournisseurs d'obus, matériel d'artillerie, munitions et autres produits qui faisaient le siège du département depuis la destruction du Maine. Russell Sage, banquier, déclarait que si la guerre éclatait, il n'était pas besoin de préciser dans quel camp seraient les riches. Une enquête menée auprès des hommes d'affaires révélait que John Jacob Astor, William Rockefeller et Thomas Fortune Ryan étaient parfaitement d'accord avec la guerre. J.P. Morgan, pour sa part, estimait que continuer à discuter avec les Espagnols ne servait plus à rien. Lorsque McKinley proposa la guerre au Congrès, le 11 avril 1898, il ne reconnut pas les rebelles comme des belligérants et ne demanda pas l'indépendance de Cuba. 9 jours plus tard, le Congrès réuni donnait à McKinley la permission d'intervenir. Lorsque les forces américaines débarquèrent à Cuba, les insurgés les accueillirent avec joie, pensant que l'amendement Taylor garantirait l'indépendance de Cuba. Nombreux sont les livres d'histoire sur la guerre hispano-américaine qui prétendent que l'opinion publique a poussé McKinley à déclarer la guerre à l'Espagne et envoyer des troupes à Cuba. Effectivement, certains journaux influents avaient exercé une forte pression en ce sens, parfois même de manière hystérique. En outre, de nombreux Américains, croyant que l'objectif de l'intervention était l'indépendance de Cuba, en soutenaient l'idée. Mais McKinley se serait-il lancé dans une guerre pour satisfaire la presse et une partie de la population? Il n'existait pas de sondage d'opinion à cette époque, si les milieux d'affaires ne l'avaient pas exigé. Les syndicats américains s'opposaient à l'expansionnisme. Les Chevaliers du Travail et l'American Federation of Labor, l'AFL, avaient rejeté l'idée d'une annexion de Hawaï proposée par McKinley en 1897. Malgré la sympathie qu'ils éprouvèrent pour les rebelles cubains dès le début de l'insurrection contre l'Espagne, en 1895, ils rejetèrent donc à la convention de l'AFL une résolution réclamant l'intervention des États-Unis. Samuel Gompers, de l'AFL, écrivait à un ami. « La sympathie de notre mouvement pour Cuba est réelle, fervente et sincère, mais elle ne signifie pas que nous soyons liés à certains aventuriers qui souffrent apparemment d'hystérie. » Lorsque l'explosion du Maine, en février 1898, inspira des discours enflammés en faveur de la guerre, le mensuel de l'Association internationale des mécaniciens reconnut qu'il s'agissait d'un véritable drame, mais souligna également que les accidents du travail entraînant la mort de travailleurs ne provoquaient pas une telle ferveur nationale. Le journal rappelait le massacre de Latimer du 10 septembre 1897 lors d'une grève des mineurs en Pennsylvanie. Des mineurs autrichiens, hongrois, italiens et allemands, importés à l'origine en tant que briseurs de grève, mais qui s'étaient ensuite organisés, qui manifestaient sur la route menant à la mine Latimer, refusèrent de se disperser. Aussitôt, le shérif et sa troupe avaient fait feu, tuant 19 personnes, pour la plupart abattues dans le dos, sans que la presse ne s'en scandalise. Le journal ouvrier rappelait que le carnage macabre qui a lieu chaque jour, chaque mois et chaque année dans le secteur industriel, les milliers de vies fichues, sacrifiées annuellement sur l'autel de la cupidité. Le tribut de sang versé par le travail au capital n'inspire aucun cri de vengeance et de réparation. La mort vient, à des milliers d'occasions, réclamer ses victimes dans les usines et dans les mines, sans qu'aucune clameur populaire ne se fasse alors entendre. Les socialistes refusaient la guerre, à l'exception du journal juif, le Daily Forward. The People, journal du Parti Socialiste Ouvrier, qualifiait la question de la liberté de Cuba de prétexte et déclarait que le gouvernement voulait la guerre pour détourner l'attention des travailleurs de leurs vrais problèmes. L'Appeal to Reason, un autre journal socialiste, affirmait que la dynamique en faveur de la guerre était une des méthodes favorites des dirigeants pour empêcher le peuple de combattre les injustices intérieures. Un socialiste écrivait dans le Voice of Labor de San Francisco « Il est terrible de penser que les pauvres travailleurs de ce pays pourraient être envoyés pour tuer et blesser les pauvres travailleurs d'Espagne, simplement parce qu'une poignée de dirigeants les inciterait à le faire. » Pourtant, comme le remarque Fauner, une fois la guerre déclarée, la majorité des syndicats succombèrent à la fièvre guerrière. Samuel Gompers parla de guerre juste et glorieuse et prétendit que 250 000 travailleurs syndiqués s'étaient déjà portés volontaires pour le service armé. Le United Mine Workers remarquant que la hausse des prix du charbon était une conséquence de la guerre, annonçait que les commerces du charbon et de l'acier n'avaient pas été aussi florissants depuis bien des années. La guerre entraîna des créations d'emplois et l'augmentation des salaires, mais également une hausse des prix. Fauner affirme que non seulement le coût de la vie augmenta considérablement, mais en l'absence de tout impôt sur les revenus, le coût de la guerre fut supporté par les plus pauvres à travers l'augmentation des taxes sur le sucre, la mélasse, le tabac et autres produits du même type. Gompers, qui soutenait officiellement la guerre, signalait néanmoins en privé qu'elle avait amputé de 20% le pouvoir d'achat des travailleurs. Le 1er mai 1898, à New York, les autorités interdirent la manifestation que le Parti socialiste ouvrier organisait contre la guerre. Elles autorisèrent, en revanche, une autre manifestation organisée le même jour par le journal juif Daily Forward, appelant les travailleurs juifs à soutenir la guerre. La Western Labor Union fut fondée à Salt Lake City le 10 mai 1898 parce que l'AFL ne s'occupait pas des travailleurs non qualifiés. Ce syndicat souhaitait réunir tous les travailleurs, sans distinction de profession, de nationalité, d'opinion ou de couleur, et sonner le glas de toutes les entreprises et trusts qui ont privé le travailleur américain des fruits de son labeur. L'organe de ce syndicat jugeait que l'annexion de Hawaï prouvait que la guerre qui avait commencé sous prétexte de secourir les Cubains affamés s'était soudainement changée en guerre de conquête. Cette politique expansionniste serait encore plus séduisante si elle pouvait passer pour un acte de générosité, comme venir en aide aux rebelles souhaitant se débarrasser d'une domination étrangère, par exemple à Cuba. En 1898, les rebelles cubains luttaient depuis déjà 3 ans pour leur indépendance. Il était encore possible, à cette époque, de créer un engouement national en faveur d'une intervention américaine. Il semble qu'au départ, les milieux d'affaires n'aient pas voulu d'une intervention militaire à Cuba. Tant qu'ils pouvaient obtenir le libre accès aux marchés extérieurs, les négociants américains n'avaient pas besoin de colonies ou de guerres de conquête. Cette idée de la porte ouverte devint au XXe siècle le thème dominant de la politique étrangère des États-Unis. Il s'agissait d'une approche de l'impérialisme certainement plus sophistiquée que la traditionnelle construction impériale pratiquée par les Européens. Selon Eppelman Williams, ce débat national est généralement considéré comme une bataille entre les impérialistes, menée par Roosevelt et Lodge, et les anti-impérialistes, menée par William Jennings Bryan et Carl Schurz. Pourtant, il serait plus juste et plus pertinent de considérer qu'il s'agissait d'un combat entre 3 factions. Le 3e groupe était composé d'hommes d'affaires, d'intellectuels et de politiciens qui s'opposaient au colonialisme traditionnel et défendaient une politique de la porte ouverte à travers laquelle la puissance économique prépondérante de l'Amérique pénétrerait et dominerait toutes les régions sous-développées du globe. Néanmoins, cette préférence affichée par certains groupes d'affaires et quelques politiciens pour ce qu'Appelman Williams appelle « l'empire informel » sans guerre, était toujours sujette à révision. Si l'impérialisme pacifique s'avérait impossible, il devenait nécessaire d'avoir recours à l'intervention militaire. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.